Je vais vous lire un passage qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler, l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de vos besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est une phrase que moi je l'entends entendue. C'est une phrase que l'on se ressort à l'approche notamment d'un entretien. Et avant d'aller dans un entretien d'embauche, tu te mets cette phrase dans la tête et tu dis « Je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux tout en celui qui me fortifie. » Et même avant l'examen, « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Et même lorsqu'on a un échec, là, parfois on nous dit ne perds pas espoir et souviens-toi que tu peux tout avec Jésus. On peut la sortir aussi lorsque on a un projet. Voilà, on a un projet qui est assez ardu, et on arrive au bout avec succès et on est là. On vient voir les frères et sœurs. Ben, Seigneur, je peux tout. Je peux tout avec Jésus. Mais je me pose une question. Je prends le cas de celui qui avait son examen, notamment. Je peux tout en ce qui me fortifie. Et à la fin de l'examen, il échoue brillamment, avec succès. Ou celui qui va à son entretien d'embauche, on n'aurait pas pu faire pire que son entretien. Il échoue avec les honneurs. Il rate son entretien avec les honneurs. Alors on peut se poser plein de questions. Normalement, c'est écrit « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Mais j'ai raté mon examen ou j'ai raté mon entretien, serait-ce parce que je n'ai pas suffisamment de foi? Serait-ce parce que je n'ai pas suffisamment prié? Revenons à celui qui réussit son projet, qui vient dire à ses frères, « Voyez, le Seigneur, il est avec moi et je réussis. » Est-ce que ça voudrait dire que les autres frères et sœurs qui ne réussissent pas n'ont pas été assez persévérants dans leur foi, dans leur croyance? C'est intéressant. Est-ce que j'ai eu plus de foi pour réussir? Ou est-ce que je suis plus connecté à Dieu que mes contemporains ne le sont? Ce passage, ces mots de Paul peuvent être très mal interprétés. Moi, je les ai toujours entendus d'une certaine manière. Et parfois, on nous le ressortait à tout va comme ça. Confiance, tu peux tout. Mais t'as pas révisé ton examen. Mais t'inquiète, tu peux tout. Le Seigneur est avec toi. Je peux tout en celui qui me fortifie. Essayons de reprendre le texte. On va essayer de le contextualiser. Je veux tout. C'est lui qui me fortifie. Est-ce que tu peux passer à l'image suivante? Je peux tout. Celui qui me fortifie. Les alliés du direct, comme on dit. La situation de Paul. Est-ce qu'il avait gagné le jackpot? Je me suis posé la question parce qu'il sort cette phrase. Un moment bien précis. On peut tous affirmer, sans sourciller d'un poil, que Paul ne se retrouve pas à l'Élysée avec une myriade de serviteurs. Ou encore qu'il ne se prépare pas à signer un contrat mirobolant avec un club sportif. On peut lire dans le texte que Paul est en prison. Et même qu'il est même probable qu'il est entre la vie et la mort. Ce qu'on peut lire au chapitre 1, au verset 20 à 26, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. » Soit par ma vie, soit par ma mort, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je ne sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès, votre joie. Dans la foi, grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul est en prison et dans une situation bien spécifique. Tout à l'heure, Greg a utilisé le terme de détresse. Paul se trouve dans une détresse physique avec des besoins matériels nombreux. Je présume qu'en ce temps, en prison, on n'avait pas droit à accès à la télé. On n'avait pas droit à accès à un médecin qui serait là de temps en temps, voir comment on allait. Non, il était dans une situation assez terrible. On peut lire plus tard, plus loin, que Paul dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, aux dons reçus de la part de l'église de Philippe. » Le don qui lui est envoyé est arrivé à point nommé. Ça venait combler un besoin physique, physiologique, un instant T. Paul, lui, était dans la misère. En regardant un peu sa vie et même en lisant le texte, on apprend aussi que Paul a connu la pauvreté. Mais il a aussi connu l'abondance à plusieurs reprises. Donc, quelque part, il serait inapproprié de dire, lorsque Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », que c'est un blanc-seing pour connaître le succès. Parce que sinon, on aurait une autre définition de succès, là, pour le coup, dans la situation de Paul. Que quand il dit cela, cela ne veut pas dire que la prospérité dans notre vie est acquise. Aussi, il ne sera pas juste de croire que l'on échapperait aux épreuves et aléas de la vie en proclamant ces paroles « Je peux tout par celui qui me fortifie ». La condition de Paul nous montre clairement qu'il est dans une détresse. Donc quand il le dit, ce n'est pas cette phrase-là, « Je peux tout en celui qui me fortifie », c'est pas que les choses vont changer en un claquement de doigts, « Je vais sortir de la prison, les portes s'ouvriront devant moi, j'aurai un plateau de repas, et c'est la fin. » L'évangile est partagé d'un seul revers de la main et on est passé à autre chose. Paul, quand il annonce ses propos, il nous invite. Il nous invite à quelque chose d'autre. On va essayer de parler de l'attitude de Paul, de son contentement dans la situation dans laquelle il est. Paul exprime sa reconnaissance aux Philippiens par le don qu'il a reçu de leur part. Cependant, pour lever toute ambiguïté, pour être clair, il précise que s'il est dans la joie devant ce don, ce n'est pas pour son aspect de comblement, comme s'il en avait besoin pour être heureux. Paul a appris à se contenter, à être satisfait, quelles que soient les circonstances. Dans le texte, il précise, au chapitre 4, de versets 10 à 20, pourquoi il est dans cette joie. Et ce n'est pas lié au fait qu'ils reçoivent quelque chose qui viendrait combler un besoin bien spécifique. Paul a appris à se contenter. Il a appris à être satisfait quelles que soient les circonstances. Comme il disait tantôt, il a connu la pauvreté, il a connu l'abondance, il a appris à se contenter. Il ne dit pas que tout nous est acquis par ces phrases, comme nous le ferait croire notamment le génie de la lampe dans Aladdin. Il suffit de le frotter et on a ce que l'on a, ce que l'on veut. On a nos désirs comblés. Nos désirs matériels sont exaucés. Il nous rappelle aussi que ce n'est pas sa condition qui dictera sa joie ou son bonheur. Mais concrètement, qu'essaie-t-il de nous dire, Paul? Quel est le sens de cette phrase, de ces mots? Je peux tout par celui qui me fortifie. Au verset 13, Paul nous offre la raison pour laquelle il peut vivre ce contentement. Comment il peut être satisfait, content malgré tout ce qu'il vit. Il peut tout en Christ, ce que nous rappelait Greg. Ici, le tout dont Paul fait allusion n'est pas celui d'accomplir tous ses désirs, comme avec le génie de la lampe magique. Je veux une voiture, je l'ai. Je veux un château, un palais immense, je l'ai. Non. Mais plutôt qu'il peut surmonter, faire face à toutes les situations qui se présentent à lui. Que ce soit la maladie, la tristesse, l'abondance. Il y a un ancien qui me disait, et je trouvais cette phrase assez intéressante, il disait, c'est si on vivait tous dans l'abondance, il y a de fortes chances que les églises seraient peu remplies. Et je me suis dit, c'est vrai, quelque part. Quand tu n'as pas de soucis, physiologiquement, tu te poses beaucoup moins de questions. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être dans l'abondance et ne pas avoir le regard tourné vers Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Mais je trouvais cette phrase assez intéressante. Et ça me remet aussi en question. Au final, pourquoi on est là? Pourquoi je suis là en ce jour? Pourquoi je me lève et je crie à Dieu? Pourquoi j'ai cette espérance-là? Je referme ma parenthèse. Donc, quand Paul le dit, c'est qu'il peut supporter, faire face à toutes les situations qui se présentent à lui, que ce soit la pauvreté, la maladie, la tristesse, l'abondance, en étant profondément satisfait en Christ et reconnaissant envers Dieu. Si les circonstances changeaient, son contentement et sa satisfaction en Christ ne varieraient pas. On peut reprendre l'exemple de celui qui s'est tant préparé pour son examen, qui a bien révisé, qui a fait ce qu'il fallait, et qu'il échoue. Et avant de partir à son examen, il s'était dit ces paroles-là, et que même après l'échec, il doit se dire que sa foi doit rester même. Ce n'est pas cet échec-là ou ce découragement-là qui doit remettre en question toute sa foi. La lettre de Paul aux Philippiens, ici, nous révèle la patience suprême de l'apôtre, ce qui guide sa vie et motive tous ses choix, Christ lui-même. Sa priorité est que Christ soit proclamé. Oui, on peut le dire, Dieu n'est pas le génie de la lampe, chargé de répondre aux aspirations de nos cœurs, ou pour exiger de Dieu qu'il accomplisse ce qu'il n'a pas promis. Ici, ce verset nous invite à reconnaître comme étant humblement au service de Dieu, entièrement consacré à lui et à son œuvre. Tout est centré sur Jésus. J'aime bien, il y a un proverbe congolais qui dit... Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Pour moi, ça serait un peu une des plus belles définitions de l'espérance. Alors, certains vont rester dans cet enfermement. La nuit est toujours présente. Non, l'espérance, c'est tu sais que le soleil réapparaîtra. Alors, comment on peut mettre en application ceci ? Dans notre contexte d'aujourd'hui, dans nos sociétés où le désir est roi, où le slogan est « je possède et donc je suis », où le bonheur, la joie, la tristesse n'est vu qu'au travers du prisme de nos désirs non comblés. Nous devons apprendre à reconnaître que Christ est notre bien le plus précieux. Paul dit, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Peu importe les circonstances de la vie, nous avons tout en Christ. L'avantage, on l'a chanté un peu tout à l'heure, c'est quand la tempête arrive, quand on est en Christ, on peut être confiant. On sait qu'on pourra la traverser. Quand les jours heureux sont présents avec Christ, quand on est avec lui, on est conscient que l'on sera toujours droit. Parce que notre regard est tourné toujours vers lui. Il y a deux semaines, c'était de présidence, et je relatais un peu ces événements de la vie où on a des coups durs, des moments difficiles, des moments meilleurs avec le temps. Mais Si on se dit à chaque fois que mon regard est tourné vers Christ, alors mes échecs ne vont pas me détruire, ne vont pas, comme une plaie s'infecter, me détruire totalement. Je dois être tourné vers lui pour affronter ces échecs-là et passer à autre chose. Parce que je le regarde tourné vers lui. Parce que j'ai confiance, parce que je me souviens de sa main tendue. Je me souviens de sa promesse. Je me souviens qu'il a toujours été fidèle quand ça allait bien et quand ça n'allait pas. Je me souviens qu'il ne m'a jamais menti. Alors souvenons-nous, rappelons-nous. Rappelons-nous du sacrifice de Christ. Greg nous disait, j'étais dans le péché et il m'a accordé sa grâce. Souvenons-nous de cela, de ce qu'il a fait dans nos vies. Et ne baissons pas les bras. Reconnaître Christ comme maître et sauveur n'est pas synonyme de ne plus vivre les aléas de la vie. Comment réagissons-nous face aux expériences négatives de la vie, aux échecs? Très souvent, ce choc va créer de la colère, de la tristesse qui peut engendrer un découragement, comme je le disais tantôt, faisant s'effacer ou obscurcir notre espérance. Comment faire pour ne plus que cette espérance-là soit toujours là, que je ne l'oublie plus, qu'elle soit toujours là? Me rappeler de sa promesse. On peut penser à Paul au milieu de la détresse profonde et en regardant ce qu'il a souffert pour Jésus pour affirmer avec assurance « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Il ne cède pas au découragement, il aspire au contraire à continuer la course en gardant la foi, une foi entièrement dépendante en celui qui, justement, le satisfait, le comble, et lui permet de tout traverser. Voilà là la foi que nous sommes appelés à avoir dans l'épreuve. Cette foi qui nous garantit que Christ est là pour nous aider à traverser toute adversité.